But now we come to a period that I call the battle for identity.
Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah.
Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 11, épisode 8. Au programme cette semaine, un entretien avec Guy Estic, créateur, éditeur des éditions Rouge Profond, lors de sa venue à Rennes dans le cadre du festival Courmétrange. Cet entretien a été réalisé avec le concours de Simon Danielou. Guy Estic, bonjour.
Bonjour.
Donc, merci de nous recevoir pour cette interview, donc pour En attendant Godard. Vous êtes ici à Rennes dans le cadre du festival Courmétrange, où vous avez présenté notamment hier la soirée Dario Argento, où il y avait deux restaurations qui passaient, il y avait Suspiria et Les Frissons de l'Angoisse. Et donc, vous êtes éditeur, directeur de collection, journaliste, auteur, et vous êtes notamment ici, en tout cas, sous le titre de directeur des éditions Rouge Profond, sur lesquels donc nous allons revenir plus en profondeur. Et pour m'accompagner dans cette interview, donc j'ai mon collègue Simon Danielou. Bonsoir Simon.
Bonsoir.
Donc voilà, donc on va, je pense, revenir plus largement à la fois sur la cinéphilie et sur le monde de l'édition, et surtout de l'édition de livres de cinéma, qui est un milieu assez particulier, je pense, dans le milieu du livre, et peut-être même, je sais pas, on verra, dans le milieu de l'édition de livres d'art. Et donc on voulait revenir avant de partir plus précisément sur Rouge Profond, sur une revue que vous aviez fondée à la fin des années 90, début des années 2000, une revue qui nous a beaucoup marqué, Simon et moi. C'est la revue Simulacre, qui avait été fondée avec Jean-Baptiste Torré, donc, qui après a la carrière que l'on sait, le discours cinéphilique et critique que l'on connaît. Et donc on voulait savoir un petit peu comment s'était créée cette revue-là, qui était, on va dire, à mi-chemin entre les écrits de cinéma et les écrits sur l'art et la philosophie même.
Le Simulacre, je dois dire que c'est une aventure qui a commencé lors d'un colloque international à Liège sur le cinéma de genre. Moi, j'étais convié pour parler de Lost Highway. Je commençais à travailler sur Lost Highway. Et Jean-Baptiste venait, alors je ne sais plus s'il venait parler de Carpenter, mais c'était le moment où il sortait, lui, Mythes et Masques avec Luc Lagier. Donc il y avait plein de beau monde, hein. Il y avait Philippe Rouillet, il y avait Jean-François Roger, enfin voilà. Et on a beaucoup sympathisé tous les deux lors des longs repas. Et Jean-Baptiste m'a dit tout de suite, moi, je rêve d'une revue, il manque une revue qui soit une revue d'analyse un petit peu poussée avec des photogrammes, une revue sans publicité, etc. Donc moi, je lui ai dit banco, j'ai toujours voulu être éditeur. Et donc j'ai créé l'association, c'est Jean-Baptiste qui a trouvé le nom, Rouge Profond. T'es déjà fan de Dario Argento, et c'est un très beau nom. Et on a lancé la revue. Là où on a été un peu fou, c'est qu'on a lancé la revue directement en kiosque. On a tiré dès le premier numéro Filmer la peur à 5000 exemplaires. C'est parti à 3000 tout de suite. Et on a enchaîné. Après, c'est une revue qui avait une parution un petit peu inégale, puisqu'on est, moi, je suis enseignant à temps plein, mais Jean-Baptiste faisait déjà beaucoup de choses. Et donc on a eu, de 1999 à 2003, 8 numéros. Et on était très contents parce que ça a tout de suite pris. Alors c'était un peu l'âge d'or des revues aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait pas mal de revues, Tausend Augen, Synergon, Au hasard Balthazar, tout ça, des revues un peu... Alors je ne parle pas des revues comme Cahiers du cinéma ou autre, hein, mais des revues un peu plus... qui venaient du milieu un peu étudiant, avec des photogrammes, des notes bas de page, des choses comme ça. Mais Rouge Profond et Simulacre, c'était un peu distingué. Vraiment, ce qui est resté aujourd'hui la marque de fabrique de Rouge Profond, par l'utilisation de ces photogrammes. Hein, vraiment, on a voulu ça très très tôt. Et ensuite, en 2003, Jean-Baptiste voulait accélérer les choses. Lui, il était journaliste. Moi, je ne suis pas journaliste, je suis écrivain de cinéma et surtout enseignant, à la fois dans le secondaire et à la fac. Mais lui voulait être journaliste vraiment à temps plein avec une revue. Je lui ai dit, moi, je ne peux pas. Ma vie, c'est être enseignant, je veux bien. Et du coup, là, ça s'est scindé en deux parties. Moi, je voulais faire de l'édition livre. Lui a continué avec une revue qui s'appelait Panique pendant 5 numéros. Et avec... touche profond au livre. J'ai pu rentrer grâce à un ami qui s'appelait Christian Tartin, qui travaillait au métier du livre à Aix-en-Provence, en diffusion-distribution. Parce que peut-être qu'on en reparlera, mais ce qui est le nerf de la guerre pour de l'édition, ce n'est pas tant de créer une maison d'édition, surtout aujourd'hui. Ce n'est pas tant d'imprimer, surtout aujourd'hui. Moi, je suis démarché chaque semaine par un imprimeur différent. Ils vous font des prix, mais à tomber. C'est l'accessibilité des livres aux librairies. C'est-à-dire que, et ça coûte cher. Très très rapidement, j'ai pu entrer en diffusion-distribution avec Harmonia Mundi, qui est un très très bon diffuseur national, qui travaille très bien et qui nous rend présent à la fois en national, sur les sites, en Belgique, en Suisse et au Québec. Et là, les livres sont présents en librairie. Pour moi, c'était majeur. À partir de là, l'aventure a commencé. Jean-Baptiste était plus sur sa revue. Moi, j'ai développé avec Christian Tartin jusqu'en 2008 Rouge Profond. Et à partir de 2008, je suis tout seul aux commandes. Et voilà, je continue. Et l'an prochain, je vais faire le 100e titre. C'est une maison d'édition dont je suis très content. Mais comme je suis tout seul, mais vraiment tout seul aux commandes, ça devient un petit peu lourd pour moi. Parce que c'est une petite maison d'édition, mais qui devient grande. Toute proportion gardée, mais grande par rapport au fait que je sois tout seul. J'ai une fabuleuse équipe de maquettistes depuis le début, qui sont exceptionnels, ce qui fait la qualité des livres Rouge Profond, je pense. Et chaque fois, on relève les défis parce qu'ils connaissent toute la chaîne du livre. Ce sont des maquettistes qui connaissent. Par exemple, j'ai besoin de faire Midi Minuit Fantastique. Ils me disent, mais non, il te faut cet imprimeur italien qui va faire ce façonnage-là, parce qu'ils ont ce papier-là en Italie, ils ne l'ont pas ailleurs, etc. Voilà, c'est des maquettistes comme ça que j'ai. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Et c'est ce qui fait la qualité de Rouge Profond. Et je n'ai jamais transigé sur les photogrammes. J'ai introduit aussi de la couleur. Mais cette économie-là, je peux me la permettre parce que je suis tout seul. Je n'ai pas de masse salariale. Je paye très bien mes maquettistes, je paye les auteurs, mais je n'ai pas de masse salariale, ce qui fait que je peux proposer des livres qui sont avec des rabats, qui sont cousus et qui ont beaucoup de photogrammes. Et cette économie-là, elle n'est possible que parce que je suis enseignant, que j'ai un salaire fixe, et c'est moi qui suis le correcteur, donc je prof de lettres aussi, donc... Voilà. Et c'est pas fragile, hein. Au contraire, Rouge Profond va bien, mais ce n'est pas fragile parce que je suis enseignant par ailleurs. Mais ce qui me permet de sortir les livres que je veux sortir.
On pourra revenir sur la forme, mais c'est vrai que dans une librairie, dans une bibliothèque, les livres Rouge Profond ressortent aussi grâce à ce travail de mise en page et de forme qui est très appréciable, qui est très apprécié aussi, je pense, du public. Oui. Qui est plutôt concerné, les cinéphiles ont aussi un attachement au livre, à l'objet par lequel passe leur passion
tout à fait.
Aussi. Notamment le travail sur les photogrammes, c'est quelque chose qui reste une référence.
Tout à fait, et pour aller dans votre sens, Harmonia Mundi, mon diffuseur-distributeur, ils ont développé un département livre numérique. Ils me demandent quand est-ce que tu vas passer en e-pub, tout ça. Je lui dis non, pour l'instant je ne passe pas. Raccord, la collection Raccord qui est très illustrée, je n'ai pas envie. Mais il me dit, tu sais, on peut faire, les gens peuvent zoomer sur le photogramme. Je dis non, les gens aiment bien le papier ou autre. Par contre, je pourrais passer la collection des bords, qui est plus une collection où il n'y a pas d'image, et c'est là où j'ai mis les livres comme Torture Porn ou le fan footage, parce que ça me posait des problèmes éthiques. Je veux dire, je vais pas mettre des photos de torture. Et donc avec Pascal Français, c'est un très très bon livre, je trouve, très bien écrit, parce que Pascal Français en plus est un écrivain, et on a fait un peu un livre un peu multi-artistique, parce que dans la première page il y a une référence à un blog où il a mis les extraits des films et des photogrammes, et vous pouvez vous référer à chaque fois. À la rigueur, moi, je serai prêt à tester bientôt. Vous savez, il y a des livres où vous pouvez scanner avec votre portable le code barre ou le code
QR code.
QR code. Et ça, je suis plutôt prêt à le faire aussi. Là, je vais faire refondre mon site parce que je m'en occupais tout seul. Il est minable. Donc, ça y est, là, je vais sortir 3000 euros pour un vrai site l'an prochain. Parce que ça va être avec une campagne avec le 100e livre Rouge Profond, le nouveau site et tout ça, enfin, dynamiser un peu les choses.
Personnellement, je suis plutôt attaché à votre site, mais en revanche, je remarquais qu'il n'était plus trop à jour.
Non, mais j'ai plus le temps, il est un peu vieillot dans la forme. Et là, la personne qui va le faire va garder l'idée de l'esprit Rouge Profond, mais ça va être un vrai site dynamique, avec parfois des liens interactifs, des choses comme ça, voilà.
J'ai une question qui me vient, vous l'avez déjà plus ou moins abordée en évoquant Harmona Mundi, mais j'ai le souvenir d'avoir pu commander dans un libraire rennais qui n'existe plus des anciens numéros de Simulacre. Est-ce que c'est la disparition qu'on évoque parfois de ces intermédiaires indispensables que sont les libraires vous inquiète ? Est-ce que...
Alors, ça m'inquiète et à la fois, je suis assez confiant. On est dans... La France est exceptionnelle grâce à Jack Lang dans les années 80. Non, mais vraiment, ça a été un immense ministre pour ça parce qu'il a imposé quelque chose que tout le monde nous envie aujourd'hui. C'est le prix du livre unique. Et il a sauvé l'édition. C'est-à-dire que le principe du prix du livre unique, c'est-à-dire que vous soyez à la FNAC ou que vous soyez chez un petit libraire, le livre a le même prix. Ce qui n'est pas le cas dans les autres pays. Ce qui fait que ça a sauvé l'édition. Pourquoi ? Parce que si vous n'avez pas de prix de livre unique, vous pouvez brader chez un grand libraire, une grande chaîne, un livre. Et à ce moment-là, la grande chaîne va faire pression sur l'éditeur. Il va lui prendre, il va lui dire, je te prends 3000 exemplaires, mais je te fais le... Ce qui fait que vous tuez les éditeurs. C'est pour ça qu'en France, on a énormément d'éditions. De petits éditeurs qui en plus sont aidés par le Centre National du Livre en partie, etc. Donc on a quelque chose, un système français qui fait que je pense que la librairie indépendante, elle souffre, hein, attention, hein, c'est dur pour eux, mais a encore de beaux jours devant elle. Et moi, Rouge Profond est bien vendu sur Amazon, etc., parce que je cours le plus, mais j'ai de très bons contacts avec plein de librairies indépendantes. Et Harmonia Mundi est le diffuseur-distributeur idéal pour ça. C'est un diffuseur-distributeur qui n'a pas d'actionnaire. C'est un diffuseur-distributeur qui ne vous met pas en danger, vous, si on rentre dans le point de vue un peu technique. Quand on fait des offices, ça veut dire que moi, j'ai 14 représentants, 3 téléphoniques et 11 ou 10 ou 11 physiques. Quand un livre est en préparation, 6 mois avant, ils font le tour des librairies et ils font ce qu'on appelle les notés. Ils vous disent, voilà, les libraires en prennent tant. Et donc moi, comme ça, je peux ajuster mon tirage. Ce qui est bien avec Harmonia Mundi, c'est que c'est pas du tout un diffuseur-distributeur qui vous dit « Ah ben là, on va remplacer 5000, puis on attendra les retours. » Parce que quand vous prenez des retours dans la vue, et c'est pour ça que ça coule des éditeurs, voilà, vous êtes en négatif. Au début, on peut être un peu déçu d'être moins exposé, mais le gros avantage d'Harmonia Mundi, c'est qu'ils travaillent en permanence, en relation, c'est-à-dire qu'ils sont dans le réassort permanent. C'est la grosse qualité d'Harmonia Mundi, je trouve, c'est qu'ils réagissent très vite. Ils sont en réassort et ils sont en lien. Et les libraires aiment beaucoup Harmonia Mundi, ils ont une relation de confiance avec eux. Ça reste à échelle humaine, on va dire. Même si ça reste des... Ils me prennent un pourcentage, on est dans des relations financières, mais ça reste à échelle humaine.
Et je voudrais revenir sur votre ligne éditoriale, mais je ne sais pas si l'expression vous...
Si, j'y tiens.
Thomas évoquait tout à l'heure, dès Simulacre, ce brouillage un petit peu des frontières, déjà entre domaines, entre disciplines,
absolument,
cinéma, histoire de l'art,
absolument,
contemporain, des apports philosophiques. Et puis, on peut sentir aussi une sorte de déhiérarchisation,
absolument,
des genres.
Traiter le genre aussi bien que...
De texte sur le cinéma pornographique,
exactement,
qui peut être aussi bien traité comme figure esthétique, forme esthétique, que le cinéma d'horreur, que le cinéma d'auteur avec Antonioni ou que sais-je, les croisements entre Argento.
Vous avez absolument bien saisi ça, oui.
Et voilà, comment ça s'est poursuivi, répercuté
sur... Ça, c'est quelque chose qu'on avait à cœur avec Jean-Baptiste dès qu'on avait créé Simulacre, c'est-à-dire que vous pouviez trouver dans la revue Simulacre un article aussi bien sur Antonioni que sur José Mojica Marins, voilà, dans le même numéro. Donc on voulait absolument pas être dans la hiérarchisation. On était tous les deux fans du cinéma d'horreur, mais pas que. Parce que pour moi, il y a des excès dans les deux sens, c'est-à-dire les fans de cinéma d'horreur sont souvent trop fans de cinéma d'horreur et ne vont pas aimer Sur la route de Madison ou autre, que j'adore, ou inversement Antonioni, etc. Et inversement, le mainstream ne va pas... Donc avec Jean-Baptiste, on était tout à fait en phase avec ça. On avait aussi très rapidement, Jean-Baptiste et moi, on est allé sur l'idée de toujours un entretien d'ouverture avec quelqu'un qui ne soit pas du cinéma, d'où les entretiens avec Georges Didier Berman, Clément Rosset, Muriel Gagnebin, voilà, enfin, c'est lui avec Baudrillard, ce fameux numéro ruine. Et c'est quelque chose que j'ai conservé moi à Rouge Profond, à tel point, je ne sais plus la date, mais qu'il m'a fallu créer cette collection qui s'appelait Débord. Et je l'ai créé parce que je recevais beaucoup de manuscrits qui débordaient le cinéma, qui avaient le cinéma en point de mire, mais qui pouvaient être aussi bien des manuscrits soit de profs de littérature, soit de chercheurs en sociologie. Ou c'est pour ça que j'avais commencé avec Tueur en série, Thierry Jandroc faisait à la fois l'exploration de la figure du tueur en série au cinéma, dans la télévision, en littérature, mais lui-même est praticien, c'est-à-dire qu'il est les psy en hôpital et qui se confrontait à des cas de schizophrénie, des choses comme ça. Du coup, ça a fait ce livre que je trouve passionnant. Et toute la ligne de Débord, elle est là-dedans. Et même, je dirais qu'au sein de Raccord, les approches peuvent être pluri-artistiques, multi-artistiques. La photographie, la peinture. Je prends pour anecdote Paul Verhoeven, quand j'ai fait le livre d'entretien en 2010, Paul Verhoeven, extraordinaire, j'avais trouvé ça magnifique. Il nous avait envoyé, un jour, Nathan Rera, l'auteur, a reçu un colis du PS, et là dedans il y avait les storyboards de Paul Verhoeven, sa photo là, il nous avait mis, c'est la seule photo que j'ai de mon père, ne la perdez pas, et voilà, la reproduction des toiles de sa fille, etc. Et Paul Verhoeven, c'était important qu'il y ait la place de l'art, parce que c'est un immense alors il adore la peinture, et voilà, et même là ça nous a rattrapé là, et on a reproduit des tableaux. Voilà, donc je pense que le cinéma est vraiment, on revient à cette idée, c'est bateau ce que je vais dire, mais le cinéma est cet art qui croise tous les autres arts. Donc à un moment donné, il faut aussi qu'on fasse part de ça.
Oui, et donc justement, avec Rouge Profond, donc il y a les arts de manière générale, le cinéma en particulier, mais il y a aussi quand même une certaine politique au sens large, parce que notamment un livre comme celui de Masao Adachi, on se dit que c'est quand même assez particulier de voir ça dans une pure collection de cinéma, alors qu'il parle quand même beaucoup de propagande, de politique, tout ça. Je me demandais, dans le cadre de Rouge Profond, si c'est pas difficile ou osé de sortir ce genre de livres qui, surtout en plus en termes de discours politique, sont quand même extrêmement virulents, extrêmement engagés, très violents.
Alors, c'est pas difficile parce que je suis indépendant, que j'ai une économie relativement raisonnée et raisonnable, et ça va un peu avec ce que j'ai pu dire, c'est-à-dire que comme je n'ai pas de masse salariale ou autre, je peux me permettre des livres un peu plus difficiles, alors que ce soit d'un point de vue plus politique, avec Masao Adachi, en plus qui a été interdit de séjour, enfin voilà, qui a été un activiste politique énorme, mais derrière j'avais la caution de Nicole Brenez quand même, qui a fait la préface, et aussi l'idée que ce livre d'entretien, il est très intéressant, ce livre de traduit, parce que ça montre aussi une époque sur le cinéma activiste, et ça montre un itinéraire, ça me permettait de faire écho à d'autres livres que j'avais dans la collection Raccord, mais qui est plus asiatique, où on va croiser Oshima, Wakamatsu, des gens comme ça. Voilà, et donc j'ai vraiment aussi cette ligne éditoriale alors ma ligne éditoriale elle est multiple, mais en gros je dirais que j'ai trois lignes éditoriales. J'ai une première ligne éditoriale qui est le patrimonial, donc je ne suis pas nouveau là-dessus, hein, mais cette idée d'aller chercher le patrimonial, mais un peu vivant, c'est-à-dire que je ne suis pas dans le patrimonial qui est muséal, je suis dans un patrimonial qui essaye de rénover ou de restaurer quelque chose, d'où ma grosse entreprise du Midi Minuit. C'est-à-dire Midi Minuit existe, il a existé, mais je pense que les gens ont compris que l'intégrale qu'on fait n'est absolument pas du fac-similé, c'est-à-dire qu'on retrouve à chaque fois les originaux, et qu'on rénove. François Angelier, dans l'émission Mauvais Gens, avait dit une belle formule, a dit c'est une belle entreprise de rénovation, mais c'est exactement ça, de réactualisation, et de montrer que Midi Minuit est fantastique, était novateur, extrêmement novateur à l'époque, mais très nouveau encore aujourd'hui. Donc il y a ce côté patrimonial, les entretiens, l'un des premiers livres c'était les scénarios de Jacques Tourneur qui n'avaient pas été tournés, le livre de tournage de Sweet Sweet Bad Bad Action de Melvin and Peebles, et évidemment ce que vous disiez sur Adachi. Ça c'est la première ligne. La deuxième ligne, c'est ce que vous disiez, c'est la ligne transartistique. C'est-à-dire mélanger les gens, les discours, croiser les approches, être dans une sorte d'ouverture et d'une pensée ouverte et ouvrante. Voilà, pour reprendre un peu l'expression de Jerzy Duberman. Et troisième chose, alors là, c'est aussi ma formation à moi à l'université, j'enseigne en esthétique, c'est l'approche esthétique formelle, d'où la présence des photogrammes, etc. Rouge Profond, on ne va pas avoir peur de parler d'échelle de plan, de cadre, de montrer que la forme et le fond vont main dans la main. Donc voilà, grosso modo, j'ai à peu près ces trois lignes-là.
On a évoqué le cinéma et les autres arts, mais il y a aussi le cinéma sur le cinéma avec la rénovation entre guillemets d'une revue, avec une biographie de cinéaste, avec la nouvelle parution de la biographie Peur de Tarantino.
Et là, je prends en diffusion édition Ciné Bazar, voilà, la revue de Thomas Rivet qui était magnifique, qui était chez Leitmotiv, mais il lui manquait un diffuseur-distributeur.
Et puis également, on peut évoquer ces entretiens. Vous avez déjà parlé de celui avec Paul Verhoeven, où il aborde les arts, l'histoire, la théologie et autres. Mais on peut évoquer aussi celui consacré à Kiyoshi Kurosawa, avec un cinéaste très cinéphile, où il y a une autoréférentialité du cinéma ici dans cet entretien. Est-ce que vous avez une attirance particulière pour ces cinéastes maniéristes, cinéphiles à la base? On sent quand même qu'avec Guillermo del Toro, Argento, Kurosawa, on retrouve...
Ils sont des cinéastes qui ont une conscience de l'histoire du cinéma, ça c'est clair, qui inscrivent leur travail dans une continuité qu'ils questionnent, qui inscrivent leur travail dans une conscience du geste artistique. Et c'est vrai que la dimension entretien était pour moi très très importante, surtout prendre son temps, c'est-à-dire sur des entretiens de carrière longs. J'ai plus d'une dizaine de livres d'entretien, parce que, et en plus pour ne pas rester dans le genre, j'ai aussi le livre d'entretien avec Emmanuel Mouret, qui vient de sortir, Mademoiselle Jonquière, qui est un film extraordinaire. Et enfin, on est content, voilà, il y a un film, il fait 500 000 entrées. Or, Emmanuel Mouret, jusqu'à présent, c'était confidentiel. Et voilà, je suis le premier à éditer un livre d'entretien avec Emmanuel Mouret. Quand on m'a dit, les gens sont très étonnés, Rouge Profond, Emmanuel Mouret, le livre d'entretien avec Nanni Moretti. Enfin, et à chaque fois, en plus, ce sont des gens qui réfléchissent vraiment sur leur inscription dans une certaine conscience cinématographique. Là, je prépare pour 2020 un livre d'entretien avec Lucas Bellevaux. Voilà, c'est quelqu'un quelqu'un qui me prépare ça. Là, on a approché Juan Antonio Bayona qui a dit oui. Et toujours aussi, pour moi, des cinéastes qui n'ont pas leur livre. C'est-à-dire essayer de... l'autre. Alors, c'est peut-être pas une ligne éditoriale, mais en tout cas, c'est un désir personnel. C'est d'aller vers des livres qui manquent. Là, en 2019, je publie un livre sur Zemkis. Ça va être plus compliqué, mais... c'est un immense créateur, Zemkis. Là, je cherche à... Je vais y arriver, parce que ça fait 10 ans que je cherche pour faire un livre sur Peter Weir. Pour moi, Peter Weir, c'est un immense cinéaste. Et on n'en parle pas. Voilà, c'est... Il y a cette idée-là aussi d'aller chercher des cinéastes qui vont parler de leur œuvre, ou qu'on va parler de leur œuvre pour eux, avec des cinéastes qui ont une conscience, oui, du cinéma. Je ne sais pas si on peut les mettre sous le terme généraliste de maniériste. Certains le sont plus que d'autres. C'est pas non plus du méta-cinéma, c'est une vraie conscience de la fabrique cinématographique. C'est vrai que je suis peut-être aussi du côté de la fabrique, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la poésis, quoi, faire, et ces cinéastes-là, ils sont assez passionnants en entretien. Même Emmanuel Mouret, qui semble être... c'est un cinéma qui semble très facile au départ, assez simpliste pour certains, mais quand il vous en parle, par exemple, pour moi, c'est un immense cinéaste français qui filme la parole au cinéma. Donc, allez filmer la parole au cinéma avec des longs dialogues, et il chorégraphie cela, et il le dit dans le livre d'entretien très très bien qu'a fait Marilyn Aligier. Donc, oui, c'est...
Alors, on évoquait la biographie de Dario Argento, et se pose donc la question de la traduction. À titre personnel, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire cette biographie, que je ne connaissais pas en langue italienne, mais je me suis demandé si ça tenait à la plume d'Argento, mais aussi, je me suis dit, il y a sûrement un enjeu de traduction.
Oui, alors, elle est très bien traduite par Bianca Concolino, qui est un professeur à l'université de Poitiers. Dario Argento lui-même en est très content. parce qu'il faut savoir qu'il lit le français, hein, Dario Argento. Dario Argento a écrit son autobiographie avec quelqu'un avec qui l'a préparé. C'est très bien mis en scène. Mais j'avais à cœur que ce soit très très bien traduite, parce que pour moi c'était un vrai enjeu. Évidemment, m'a appelé en rouge profond. Et quand on l'a annoncé à Dario Argento, il a appris à Strasbourg. Et il paraît qu'il s'est écrit oui, c'est forcément cet éditeur-là qu'il faut. Il ne connaissait pas forcément Rouge Profond, mais un éditeur qui s'appelle Rouge Profond, et c'est pour moi. Il a beaucoup aimé. Du coup, là, j'ai acheté les droits de son prochain livre en Italie. Dario Argento ne fait plus de films, mais il développe beaucoup la fiction et autres. Et en Italie, il vient de faire paraître cette année Aurore, H-O-2-R-O-R, qui est un recueil de 6 nouvelles. Dont j'ai acheté les droits. Donc au début, je pensais ne pas les obtenir, parce que l'autobiographie, c'est l'éditeur italien qui s'appelle Einaudi, qui est un bon éditeur. Mais là, Aurore, c'est carrément Mondadori. Mondadori, c'est un gros... c'est style Gallimard, vous voyez. Donc je me suis dit, en termes de droits, je ne vais pas l'obtenir. Mais Dario Argento est intervenu. Et en gros, j'ai eu les mêmes droits que pour Einaudi. Parce que Dario voulait que ce soit nous, quoi. Et donc je le sortirai en septembre 2019. Il y a 6 nouvelles. Dont la première nouvelle, c'est magnifique, c'est Dario Argento qui se met en scène lui-même, se promenant dans la galerie des offices, et les tableaux prennent vie. Il y a une nouvelle sur Gilles de Rais, il y a une nouvelle sur des sorcières, il y a une nouvelle sur un monstre sur une île. C'est vraiment, c'est pas anecdotique, ce sont de vrais, vrais beaux textes. Bianca, qui est en train de les traduire, me dit, mais vraiment, c'est très chouette. Et en Italie, la couverture, il y a une phrase de Guillermo del Toro, hein, qui dit que tout son amour pour Dario Argento. Pour la petite anecdote, je suis allé sur le tournage de Crimson Peak, parce que Guillermo m'avait invité, et quand je suis arrivé sur le tournage, il a dit à son assistant de m'amener voir le décor de la maison de Crimson Peak. Et quand je suis revenu, je lui dis, écoute, il y a plein de choses qui me font penser à Bava, tout ça. Et là, il demande à notre assistant, il dit, apporte-moi l'iPad, et il me montre des images qu'il avait tournées la veille avec Mea Wasikowska, et il dit, regarde, tu vois cette lumière là, c'est Bava. Et il continue, ça, cette lumière, c'est Dario Argento. Il dit, ce sont mes deux maîtres en lumière et couleur, Bava Argento. Donc en plus, pour moi, c'est chouette, parce que j'avais fait un bouquin sur Guillermo, et je m'aperçois qu'en plus, ils se connaissent, ils s'apprécient, ils s'estiment. Donc il y a aussi cette idée-là de transversalité, mais aussi au niveau des nationalités, d'un geste cinématographique qui passe d'un continent à l'autre ou d'un pays à l'autre.
La question s'est-elle posée d'illustrer la biographie d'Argento?
Non, c'est du pas, tout. C'est pas un manque, dans la, non, il y a une seule photo dans l'autobiographie d'origine où c'était Dario Argento enfant qui tient un pistolet. Moi, je me suis dit, j'ai pas besoin de cette photo. Et lui-même ne l'a pas voulu. Mais surtout aussi parce que je vais publier les actes d'un colloque. D'habitude, je ne publie absolument pas les actes de colloque, mais là, comme ce sont que des auteurs rouges profonds que j'ai fait venir, et quand on a fait venir Dario Argento à Poitiers, on a fait un colloque avec Denis Mélier et Alice Laguarda, Frédéric Astruc, que des auteurs chez moi. Hein. Alice Laguarda, elle a fait des films des maisons, Frédéric, il a fait le livre sur Martyr. Donc, on va publier les actes d'un colloque qui va être très illustré en revanche. Moi, j'ai écrit je suis intervenu sur l'espace fantôme chez Argento, et là, pour le coup, ça va être un livre très illustré. Avec préface de Jean-Baptiste Thoré.
j'aurais deux questions. La première concernant les droits dans le monde de l'édition, les droits d'illustration. Oui. Et puis la seconde, vous avez évoqué ces actes de colloque que d'habitude vous ne publiez pas. Vous faites très peu de... J'ai en tête le livre Why Not, mais de livres de collectif.
Hein. Bien sûr.
Comment vous positionnez?
Alors,
ça,
je me positionne parce que je ne suis pas éditeur... Je ne suis pas éditeur universitaire. J'ai beaucoup de respect d'université. J'ai fait une thèse, j'ai publié à l'université. Je continue de publier à l'université. Mais je n'ai absolument pas le... Pour moi, je dis souvent, je reçois des manuscrits toutes les semaines, dont des mémoires, dont des colloques. Je ne veux absolument pas ce langage-là. C'est-à-dire, je dis tout le temps aux gens, mais merci pour votre mémoire, mais je veux que ce soit un essai. Donc déjà, vous dites « je », vous dites « voilà », vous ne me faites pas des milliers de notes. Vous pouvez en faire, attention, Rouge Profond a des notes. Mais... Donc je veux dépasser ça, le jargon. Moi, je l'emploie quand je suis à l'université, mais pas dans ma maison d'édition. Deuxième chose, le problème des colloques. Il y a des colloques, les thèmes peuvent être très bien, tout ça, mais on le sait, moi j'ai participé à plein de colloques. Tout n'est pas bon dans un colloque. Beaucoup de communications sont mauvaises. Ça peut être très violent de dire à quelqu'un, je vous prends ça, mais pas tel texte, pas tel texte, pas tel... et les gens ne veulent pas. Donc à ce moment-là, qu'ils publient ailleurs. Donc si je publie en collectif, le tout premier c'était Why Not, ça c'était Jean-Baptiste qui avait, avec une autre personne, qui avait vraiment demandé à des personnes précises, et je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était des articles très longs à chaque fois. Et là, le colloque, le seul que je vais publier, c'est celui que j'ai organisé, avec les auteurs que j'ai choisis, etc. Et je vais peut-être prendre un collectif sur John McTiernan. Voilà. Parce que voilà, ça, c'est le cinéaste que j'adore depuis très longtemps. Vous avez vu que Rocky Rama sort un hors-série sur Die Hard. Cette semaine, je crois.
Ouais, il est sorti la semaine dernière.
Voilà. Un collectif où je réponds d'ailleurs aux gens qui m'ont envoyé. Parce que là, je m'aperçois qu'il y a vraiment des axes intéressants. Je ne peux pas vraiment. Et. Dernière chose, Harmonia Mundi n'aime pas trop, ça se vend peu, enfin c'est difficile les colocs à vendre. Sauf à avoir par exemple des noms comme Dario Argento ou John McTiernan. Mais c'est très difficile à vendre. C'est pour ça que ce sont des publications universitaires qui sont
subventionnées. C'est aussi parce que c'est peut-être plus connoté universitaire et donc c'est moins vendeur.
Voilà. Et pour répondre à la question de l'illustration, j'achète tout ce qui est photo d'exploitation au sens où vous avez des photographes de plateau, etc. C'est pour ça que Midi-Minuit, on a acheté des photos à des collectionneurs et autres. C'est pour ça que Midi-Minuit est une entreprise que je continue mais qui me coûte plus d'argent que je n'en gagne. Mais c'est pas grave parce que pour moi c'est un vrai acte, c'est important. En revanche, on a en France, dans la législation française voire belge, le droit à ce qu'on appelle la citation, notamment des photogrammes. Si vous prenez des photogrammes, des captures de photogrammes, vous mettez DR, droit réservé. Il faut faire un peu attention avec certains studios, ne pas mettre en couverture des choses comme Sony ou autre, mais vous avez le droit à la citation. Moi, je n'ai jamais eu de problème, par exemple, mes deux Lynch, quand MK2 ou TF1 Vidéo m'ont contacté, parce qu'à un moment donné, TF1 Vidéo voulait mettre mon Lost Highway, ou c'était MK2, je ne sais plus, le livre dans le... Hein, j'ai dit non, j'ai bien fait. Ce qui me donnait, à l'époque, il me proposait une somme qui pouvait paraître énorme, mais je préférais exploiter moi mon livre. Du coup, j'ai fait le livret. J'avais envoyé mon livre, or c'est eux qui ont le DVD, ils n'ont jamais rien dit, or j'ai plein de photogrammes dedans. Donc on a le droit à la citation. Je sais que pas mal d'éditeurs sont frileux là-dessus, ne veulent pas y aller, mais cela fait 15 ans que j'édite, je n'ai jamais eu un seul souci. J'ai eu un souci où j'avais pas crédité une photo, c'était dans un photographe de plateau, qui s'est manifesté à nous pour le Midi-Minuit. Et ça s'est résolu très simplement. On lui a dit, écoutez, on est désolé. Hein. On lui a envoyé le volume, il a rien dit. Vous voyez. Quand il y a photographe de plateau, voilà, cette photo, je l'ai achetée au Japon. La photo de mon effroyable histoire du cinéma. Voilà, c'est une photo de tournage. C'est un photographe japonais. J'ai acheté la photo. Ça ne m'a pas coûté très cher, mais j'ai acheté la photo. Voilà.
Parce que justement, notamment pour des gros studios américains, notamment, si vous avez beaucoup de photos d'exploitation, même s'ils ont été retrouvés dans des collections privées, tout ça, c'est la... Je sais pas, par exemple, c'est la Fox, la Warner qui ont toujours les droits des photos. Donc, c'est plus compliqué, j'imagine.
Ça c'est plus compliqué, donc déjà, j'en mets moins. Et je prends toujours la précaution de mettre DR. DR, droit réservé, ça veut dire que vous sous-entendez que vous ne vous appropriez pas la photo et que si des gens se manifestent, vous êtes prêt à... voyez. Mais ça, je fais attention, c'est-à-dire que j'en mets moins déjà, beaucoup moins. Mais j'ai pas eu, je vous dis, hormis midi minuit. Maintenant, nous sommes propriétaires. J'ai acheté, donc midi minuit, c'est vraiment. Je suis pas procédurier. Là, je vois sur internet, et alors, en plus, Dieu sait si je m'oppose à ce qu'on a fait à des sites, mais je vois que des gens exploitent des photos de midi minuit. Or, c'est Rouge Profond et midi minuit qui en sont propriétaires. On a déposé la marque. Si j'étais embêtant, je pourrais tomber dessus, vraiment. Mais je le fais pas. Parce que pour moi, les gens, en plus, ils parlent de midi minuit. Et ça m'a tellement débecté ce qui s'est passé sur Internet. Avec
et le Chaos Reign.
Voilà, avec... oui. Alors que les gens font des sites gratuits, qui sont des choses qui font la promotion du cinéma. Et en plus, on sait très bien que cet homme-là qui leur est tombé dessus fait exprès de faire ça. Il met exprès des photos de lui. Et si ça accroche, paf, et derrière, il a une équipe d'avocats et il tombe dessus. Et du coup, ça a coulé le site, je ne sais plus lequel.
Avoir à lire.
Avoir à lire, hein, voilà.
Mais c'est pour ça, par exemple, que des gros ouvrages comme ceux de Pierre Berthomieux sur l'histoire du cinéma américain pouvaient être aussi richement illustrés parce que c'était principalement
les photogrammes. Et on a évité de mettre en couverture tout ce qui est super-héros, tout ça.
Oui, parce que pour ça, le troisième protégé sous licence, c'est
Pour éviter, mais on a évité de mettre trop Superman, des choses comme ça, mais on a très illustré, oui.
Et rester en format papier, ça vous protège à ce niveau-là, vous pensez
Je sais pas. Alors, je sais pas. En tout cas, c'est pas mon but. C'était ne pas passer en numérique, c'est vraiment ce que je tiens beaucoup au format papier. Je passerai peut-être en numérique pour les livres qui sont non illustrés. Mais moi, j'adore le livre, donc je me bats beaucoup pour ça. Et puis, je pense qu'on peut aussi, d'une certaine façon, passer sous les radars parce que je suis tout petit. Vous voyez, je suis pas... voilà.
Alors, vous avez évoqué un livret pour un film de Lynch. Les Midi Minuit sont accompagnés aussi de DVD.
Oui, qui sont réalisés par Softprod. Voilà.
Quel est votre rapport au format DVD, enfin au support DVD? Est-ce que vous envisagez d'accompagner plus souvent?
Je l'ai déjà fait plusieurs fois. C'est-à-dire qu'il y avait eu le DVD pour écrit de Jacques Tourneur. Je l'avais mis. Pour la collection des bords, j'ai fait moi le montage d'un film sur les 30 ans, parce que ça c'est mon côté littérature, ou les écritures croisées, j'avais repris les 30 ans des manifestations littéraires à Aix-en-Provence avec des grands noms. Et pendant 3 ans, je suis plongé dans ces archives-là, j'ai pris les films et autres, et j'ai fait un montage de 2 heures. Donc je suis prêt, ouais, ça peut se faire, sachant qu'en même temps, actuellement, se développe beaucoup parce que le CNC aide à cela, des éditions Prestige en Blu-ray qui sont accompagnées de gros livres. À la rigueur, je préfère qu'ils aillent sur ce marché-là et je ne pense pas que je puisse tout à fait être à la hauteur de ce qu'ils peuvent faire, parce que le DVD ou le Blu-ray, c'est un autre marché encore, c'est une autre logique. Voilà, mais par contre je m'associe pas mal, enfin je peux être en conjonction avec des parutions DVD. Là je viens d'éditer Mercure Insolent, le livre de Haussan, et en même temps Caprici a sorti Neuf Doigts de Haussan, et du coup c'est une sorte de sortie conjointe.
Justement, je voulais revenir un petit peu, on en a parlé rapidement tout à l'heure, mais sur la question de l'économie du livre de cinéma en France, parce qu'on en parlait un peu en off avant de commencer l'entretien. Il y a quand même beaucoup de livres de cinéma qui sortent tous les mois en France, une quantité affolante, je trouve. Et on se demandait un petit peu comment fonctionne cette économie, parce que vu le nombre de livres qui sont potentiellement intéressants, en tout cas qui pourraient nous intéresser, qui sortent en France, on se demande un petit peu comment se porte cette économie du livre de cinéma, du livre d'art, je pense de manière générale, mais du livre du cinéma. Et vous, comme vous le disiez, vous êtes une petite structure tout de même, donc comment est-ce qu'on peut naviguer au milieu des gros éditeurs qui sortent quand même
de livres? C'est un peu particulier le panorama actuellement du livre de cinéma. Peut-être qu'il en sort beaucoup, mais pas autant qu'avant. C'est-à-dire que déjà, il y a la disparition des cahiers du cinéma en tant qu'éditeur. Depuis qu'ils ont été repris par Faidon, Faidon a une politique qui est de rééditer simplement les livres qui ont marché. Donc voilà. Après, certains ont baissé la voilure. Hein. Actes Sud a baissé sa voilure. Donc certains gros éditeurs ont baissé leur voilure. Après, il y a des éditeurs plus indépendants comme Rouge Profond, Yellowno, Caprici, qui éditent. Mais à la fois, il y a beaucoup de livres de cinéma, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que le sentiment que vous avez, je pense que c'est lié aussi avec ces livres qui accompagnent les DVD Blu-ray. On n'est pas si nombreux que ça sur le livre de cinéma. Après, on est très clairement sur de la publication de niche. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tirer beaucoup. L'évolution de l'imprimerie nous permet de baisser les coûts d'impression de faire des impressions moindres et ensuite de réimprimer à un coût identique. Avant, on était obligé d'imprimer à 1500, 2000 et peut-être qu'on se retrouvait avec 1300
au pilon.
Voilà, ou 1300 sur les bras. Actuellement, on ajuste plus. Donc, comme l'imprimerie est à l'agonie et ils baissent beaucoup, beaucoup leur prix, d'une certaine façon, ça sert aussi les éditeurs. Il y a un dispositif d'aide. Ça c'est sûr, mais ce sont des économies fragiles. Pour vous donner une gamme, Rouge Profond, le plus bas livre c'est 150 exemplaires vendus, le plus gros c'est 5000. Voilà, 5000 c'est Twin Peaks, mais parce que c'est Lynch, parce qu'il y a quand la saison 3 est revenue, j'en ai ressorti 500 exemplaires et que ça tournera toujours. Mais mon économie tient aussi à une chose, et ça parce que moi je peux me le permettre en tant que Rouge Profond, parce que je n'ai pas de masse salariale. Je paye les auteurs, je paye l'imprimeur, le maquettiste, et je fais attention de payer vraiment l'imprimeur, c'est-à-dire que moi je me refuse à imprimer en Chine, je me refuse à imprimer en Europe centrale. Je l'ai fait une ou deux fois, c'est bien, hein, c'est moins cher, mais les couleurs sont beaucoup plus dures, c'est beaucoup moins nuancé. Les grands maîtres de la couleur sont les Italiens, donc les gros livres. Et en France, vous avez de très bons imprimeurs, et là, de plus en plus, je travaille avec mes maquettistes qui sont aussi imprimeurs et qui ont un rapport à la couleur qui est très important. Je ne m'égote pas sur le prix à payer pour l'impression, mais en revanche, je peux le faire de manière un peu ponctuelle, et surtout maintenant, ça fait 15 ans, je vais bientôt avoir 100 titres au catalogue, c'est-à-dire que j'ai un fonds de roulement. La particularité de Rouge Profond, je ne sais pas si c'est le cas des autres éditeurs de cinéma, je ne connais pas, mais je suis un long-seller. Et ça, Harmonia Mundi, mon diffuseur-distributeur, me l'a dit à plusieurs reprises. Il me dit: Guy, étonnamment, tu ne fais pas des gros coups à chaque fois sur tes parutions, mais c'est assez impressionnant, tu es dans le long-seller. C'est-à-dire que tes livres... j'ai des livres qui ont le 26 secondes par exemple, qui est en train d'être épuisé. Il en est sorti pendant 10 ans, tous les mois, 3-4. Voilà. Et actuellement, c'est plein de livres comme ça. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que Rouge Profond est devenu une sorte de référence, et que beaucoup de livres de Rouge Profond sont des références dans des bibliographies, etc., étudiantes ou pas d'ailleurs, et qu'à chaque fois, les livres continuent comme ça de sortir. Et comme j'ai tiré suffisamment fort pour les anciens livres, j'ai toujours du stock. 10 ans après, je peux continuer à mettre en librairie le Jazz Franco. Voilà. Et ça, c'est un peu ma fierté, parce que c'est pas du tout l'économie générale où le livre a 2-3 mois de vie dans une... Là, après, on reprend les retours, on les pilonne. Par exemple, moi, je ne demande pas à Harmonia de pilonner. Je vais à chaque fois, parce que Harmonia Mundi est à Arles, je suis à Aix-en-Provence, c'est à 1 heure de route. Je vais à chaque fois chercher mes anciens livres, je les récupère, notamment les retours de librairie ou les défectueux. Je propose aux élèves, aux étudiants de les prendre pour 5 euros. Je préfère que des étudiants puissent avoir des livres pas chers, et plutôt qu'ils partent au pilon.
Ils ont bien de la chance.
Oui, mais voilà.
Peut-être qu'on pourrait... Vous avez évoqué déjà quelques projets qui approchent. On pourrait peut-être évoquer des sorties à venir. Est-ce qu'il y aura finalement un ouvrage sur le roman porno japonais qui avait été annoncé à un moment?
Oui, alors lui, non. C'était avec Dimitri Yanni il y a très très longtemps, qui actuellement travaille d'ailleurs aux éditions chez Backfilm de films. Non, ça ne se fera pas pour l'instant, en tout cas, hein, parce que ça avait pris du temps. Les projets, il y en a plusieurs. Donc là, j'ai pris un peu de retard parce que il y a eu un peu un décalage, alors suite à midi, minuit, tout ça, et puis comme je suis tout seul, c'est un peu compliqué pour moi, parce qu'en plus j'ai repris cette année très très fortement et le secondaire où je suis à temps plein, et la fac avec 5 heures de cours, tout ça, donc j'ai 25 heures de cours par semaine plus donc le Rouge Profond, et je suis président aussi du festival tout court d'Aix, donc ça fait un peu beaucoup, et donc lire les manuscrits c'est un peu long. Donc dans les projets, donc très content de Constant Voisin, son livre sur Sonotion. parce qu'en plus c'est un livre d'entretien.
Oui, on connaît.
Mais il va venir tout à l'heure. Il a travaillé de manière très étroite avec son notion. Il a tourné sur deux de ses derniers films. Et alors là, c'est exactement la politique éditoriale de Rouge Profond. On est à la source. C'est-à-dire que vraiment, ça va être un gros livre d'entretien de plus de 300 pages. Donc il y a le livre sur sur Zemkis qui va arriver. Il va y avoir un livre anniversaire, le 100e livre Rouge Profond, que je vais appeler le sang de Rouge Profond, C-E-N-T. Vous verrez, je vais demander à tous les auteurs de me faire un texte et aussi à des proches. Et ça va être l'occasion l'an prochain de faire une sorte d'année un peu anniversaire, de renouveler le site, de faire des opérations, promotions. Après, en projet, j'ai beaucoup de choses. Et ce dont je suis particulièrement fier aussi, c'est que j'ai beaucoup d'auteurs féminines qui écrivent sur le cinéma. Je ne comprends pas pourquoi. La plupart des écrits sur le cinéma sont des hommes. Moi, déjà, j'ai inauguré avec beaucoup. Diane Arnaud a fait 3 livres. Charlotte a fait le livre Largeron sur Guillermo del Toro. Mais là, Bruno de Marilyn a fait 2 livres. Mais là, j'annonce des livres qui sont étonnamment. Vont étonner les gens parce que ce sont des femmes qui vont les faire. Donc, un livre sur Tony Scott. C'est une femme qui va le faire. Un livre sur Lars von Trier, c'est une femme qui va le faire. Un livre croisé sur Russ Meyer et John Waters, donc c'est une femme qui va le faire. Un livre sur la musique et le cinéma fantastique, c'est une musicologue qui va le faire. Un livre sur Scarlett Johansson, très belle approche, c'est une femme qui va le faire. Donc voilà, ça je suis très content de ça aussi. C'est pas que je suis dans le Me Too ou quoi que ce soit, hein, mais c'est c'est pas parce que je pense aux études genrées, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est que je trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui écrivent sur le cinéma mais qui sont pas mises en avant. Voilà. Et donc il y a plein de choses qui vont paraître. Alors, un énorme livre. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sera prêt, j'espère 2020, beau livre, plus de 500 pages sur Mad Max.
Il est en train de l'écrire.
Voilà, je sais, mais ça fait 3 ans qu'il me dit qu'il est en train d'écrire.
Ah non, mais je sais, mais...
Melvin Zed.
Je sais, il m'a dit justement de vous dire, de vous rassurer qu'il était en plein dedans.
Mais chaque fois, il est terrible parce qu'il a un réseau terrible, il m'envoie plein de gens à chaque fois, il me dit de vous dire qu'il me le lâche pas le livre. Non, parce que en termes d'édition, ça va me prendre au moins 6-7 mois à faire. Ouais. Mais ça, je crois beaucoup et je sais déjà, je le
passe. De ce que j'ai lu pour l'instant, c'est...
Non, mais ça va être monstrueux. Ouais. Voilà, pour moi, c'est tout de suite traité en beau livre. Je pense que je le ferai en format midi-minuit.
Oui, justement, j'ai bien parce que les projets, les gros livres comme les Berthomieux ou les midi-minuit, c'est des projets que vous faites une fois par an, j'imagine. Parce que c'est beaucoup plus lourd en termes éditoriaux.
Plus ou moins, oui. C'est plus lourd en termes éditoriaux, c'est plus lourd en termes financiers. C'est très, très lourd. Vous sortez 45-50 000 euros de maquettes ou d'impressions, il faut les sortir. Donc c'est beaucoup plus lourd. Et en même temps, je suis très content. Donc on va bientôt terminer la quadrilogie, les 4 tomes de midi-minuit, avec le dernier qui va être monstrueux, parce que on va proposer les 2 numéros complètement inédits. Qu'on sait qu'ils ont existé, mais on les a.
Et les numéros fantômes.
Et les numéros fantômes qui ne seront plus fantômes. Et là où on va se régaler avec Nicolas, c'est qu'on va imaginer la mise en page, parce qu'elle n'a pas été faite. John Landis a déjà a confirmé le fait qu'il ferait la préface. Guillermo del Toro, et je pense qu'il va être dans un bonus parce qu'il est fou de midi-minuit. Donc là, ça va être l'apothéose, je pense que ça sera en 2020. Ça avait été retardé là pour d'autres raisons, parce que c'était lié au fait que Nicolas avait subi les attentats du Bataclan, mais là on y retravaille déjà. Donc il y a plein de projets, plein de choses qui sont dans les tuyaux, et notamment la revue de Thomas Révé, que j'aime beaucoup, Ciné Bazar, qui est là aussi une revue d'entretien. Les entretiens ont toujours une place importante. Donc toujours. Oui, un peu long, un peu entretien de carrière. Et continuer aussi la partie un peu asiatique chez Rouge Profond, parce que je pense qu'elle est importante, donc son notion. Quelqu'un m'a proposé, j'ai dit oui, Tsuyark.
On en parlait la semaine dernière.
Donc ça, moi je suis un fan de Tsuyark depuis tout le temps, le Play, Blade, enfin voilà, et c'est un très gros livre là aussi, donc voilà, l'avantage c'est que je ne fais que selon mes goûts, mais je pense que c'est les goûts d'une certaine génération déjà, et vraiment avec cette idée de curiosité du livre sur, qui n'existe pas sur des grands cinéastes que je considère comme oubliés.
Est-ce que en tant que relecteur, c'est uniquement un travail fastidieux ou vous y prenez un certain plaisir?
Je prends
également
un grand plaisir à lire, ça peut être fastidieux. J'essaye d'être le plus caméléon possible, c'est-à-dire que c'est compliqué parce que quand vous êtes relecteur, il faut se glisser dans la peau de celui qui écrit. Alors je sais, je le dis, c'est pas du tout pour me mettre en avant, mais ma grande satisfaction c'est de voir que les auteurs reviennent à chaque fois. Beaucoup veulent republier chez moi, ça veut dire qu'ils ont été très contents, que des auteurs qui ont eu des expériences ailleurs m'ont dit « mais avec toi c'est remarquable parce qu'on ne corrige pas à la serpe ». C'est Berthomieux Pierre qui m'avait dit « enfin, quelqu'un qui ne m'enlève pas mon style ». Lui, il a travaillé pour Nathan, tout ça. Berthomieux, il a une respiration dans son écriture, il fait beaucoup de phrases averbales, et moi j'adore. Mais il m'avait raconté que Nathan, je ne sais plus pour quel livre, la correctrice, il lui avait rajouté tous les verbes. Voilà. Et donc, moi, j'adore. Parfois, je fais de la réécriture parce que je considère que je publie aussi beaucoup de premiers écrits. Donc, c'est-à-dire, ce sont des écrits fragiles d'étudiants qui sortent ou de master ou autre. Donc, je peux faire de la réécriture, de rewriting, parce que j'estime que ce qui est dit est très bien, mais que c'est fragile au niveau expression. C'est ce que j'ai fait pour Charlotte Largeron, c'est ce que j'ai fait pour Maud Desmet sur Confession d'un cadavre. Il y avait eu le premier texte publié sur Les mille et un visages de Jim Carrey. Voilà, je fais beaucoup. J'ai été le premier à publier le Stéphane Duminaldo. C'était son premier texte publié. Voilà, je crois aussi beaucoup à ça. Les premiers textes de jeunes talents, de jeunes chercheurs, au moins jeunes hein, d'ailleurs. Je crois que Rémi Grelot, qui est scénariste, c'est son premier livre qu'il va publier sur Zemkis. Voilà.
Et je pense, alors, pour finir, donc, on parlait que vous avez donc créé la revue Simulacre avec Toré, et Toré a un rapport particulier avec la cinéphilie, et on a beaucoup parlé ces derniers temps quand il a fait la tournée promo de son film We Blew It. Et donc sur la question de la cinéphilie qui se déplace, et sur deux formes de cinéphilie, on peut avoir une cinéphilie plus classique, Godard, Bergman, et une cinéphilie bis, on en parlait rapidement tout à l'heure, sur des gens qui seraient fans que des films d'horreur, que des films d'exploitation. Je sais pas comment vous voyez ça, ces deux
Il y a une autre cinéphilie qui mêle tout ça.
Qui est transversale.
Qui est transversale, mais qui tient aussi à une chose. Moi, je crois beaucoup à une chose, et Jean-Baptiste nous en montre vraiment quelque chose. J'étais très admiratif de We Blew It. Parce qu'on a eu un temps où on s'est un peu éloigné l'un de l'autre, et Jean-Baptiste, on s'est retrouvés, notamment suite aux attentats de Charlie. Et je dois dire que j'attendais pas ça en fait du film. Comme je l'ai vu en avant-première, et je suis allé le voir, on a mangé ensemble, et je lui ai dit, écoute, je t'attendais absolument pas là-dessus, parce que tu as fait un vrai film de cinéma. C'est pas un film de critique de cinéma, c'est un vrai film de cinéaste. Et je pense que Jean-Baptiste nous montre une chose, et moi je pense à ma manière, je le fais aussi, c'est que la cinéphilie, c'est pas simplement le fait d'écrire sur... c'est d'être les mains dans le cambouis, dans la pâte. Donc Jean-Baptiste, il est passé du côté du cinéma parce qu'il en avait besoin et qu'il pense que son propre discours cinéphilique s'est épuisé et qu'il n'est pas là pour répéter ce qu'il a déjà dit, et qu'il peut poursuivre son geste de cinéphile par la création.
Oui, c'est pour ça qu'il a plusieurs projets documentaires,
voilà,
sur Godard notamment.
Voilà, un projet de film de fiction aussi. Moi, j'envisage exactement de la même manière mon travail d'éditeur. Pour moi, je le revendique ça, hein, pour moi, mon travail d'éditeur avec sa ligne éditoriale et ce que je produis, c'est un geste cinéphilique. Mais en même temps qui est du côté de la création. Je suis créateur de quelque chose, j'espère hein, en tout cas que Rouge Profond pourra rester comme cela, ou dans un catalogue, vous pouvez aussi bien avoir Brissot, Dumont, que vous pouvez avoir Masao Adachi, que vous pouvez avoir le torture porn, etc. Et avec toujours la même exigence de pas prendre le lecteur pour un couillon, ça déjà, d'être dans un certain niveau de réflexion, mais ne pas être non plus élitiste, enfin, de toujours tenir la... Voilà. Et je revendique vraiment l'édition comme à la fois un travail de recherche, mais aussi comme un travail de création et de discours cinéphilique. Et le retour que j'ai de beaucoup de gens me conforte là-dedans, parce que du coup, les gens qui aiment beaucoup le genre aiment Rouge Profond, mais ils s'aperçoivent aussi qu'il peut y avoir une ouverture d'esprit. Et je fais exprès à chaque fois de dire aux gens, oui, j'ai ce chant-là, mais j'ai aussi ça, je ne le cache pas. Pour ça, je vous ai parlé de Mouret aussi. Et tous les livres que je fais, je les aime, et c'est pas par, par une question d'équilibre, c'est une question de sentiments. Donc je pense qu'il y a une cinéphilie qui est en train de se construire, qui est plus dans la transversalité, le trans artistique, le trans genre, mais pas au sens sexuel du terme. Voilà, je pense qu'on est dans l'ère du trans.
Ça fait une très bonne conclusion. Donc merci beaucoup Guy-Estique
pour merci
cet
à vous,
entretien. Donc on rappelle que votre dernière parution, c'est l'autobiographie de Dario Argento,
une
des dernières, ouais. Avec notamment le troisième volume, de Midi Minuit Fantastique. Donc le dernier tome sortira l'année
prochaine. En 2020, je pense.
En 2020, voilà. Donc pour une apothéose finale.
Voilà.
Donc,
merci beaucoup.
Nous remercions encore Guy-Estique de nous avoir accordé cet entretien, ainsi que Gal pour le montage et le mixage de cette émission. Prochaine édition, ciao, bonsoir.